quartier sur Paris. Moi et mes gants de baseball. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, à part que vous êtes sur la case de Seb et que vous, on va d'abord lancer le générique. À tout de suite. Ça veut pas faire ce que je lui demande.
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h et on va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du comics et du manga. Bienvenue dans la case de Seb. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Flo. Ça va Flo ?
Ça va, merci. Et toi ?
Ça va, et je suis également avec Bruno. Ça va Bruno ?
Eh oui, ça va, et donc je sais que ça va, donc je te le demanderai pas.
Eh ben ouais, tout va bien. Je me faisais une petite remarque avant de venir, parce que j'ai failli être en retard, tellement c'est la galère en fait de circuler sur Angers. On rappelle toujours que si vous pouvez éviter de circuler, évitez, hein, c'est toujours ce que demande la mairie aujourd'hui. Mais en fait, on est rue de la Rame, je trouve qu'elle a jamais autant porté son nom, même si on est loin des inondations, mais voilà. C'était pour la petite vanne.
Ouais.
De quoi on va parler ce soir ? On va parler de plein de choses. On va parler un peu de rock. On fait un petit bisou à Fabien qui est au ski, donc qui n'est pas avec nous ce soir.
Il est au JO ?
Non, je crois pas. Mais c'est peut-être lui qui s'est fait la fracture.
Ah ouais ? Non, c'était une fille.
Avec la perruque blonde, ouais, on sait pas. voilà, donc on lui fait un petit bisou. Et puis voilà, je suis pas persuadé qu'il nous écoute, parce qu'il est certainement très occupé à autre chose. Et doucement sur l'apéro quand même. On est parti pour les news, Flo. Alors, on s'excuse, n'hésitez pas à nous rejoindre quand même sur le chat de Radio G. On s'excuse, on n'est pas sur YouTube, on n'a pas de caméra ce soir. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on est là, en tout cas, dans votre radio. Eh ben Flo, c'est parti pour les news.
Oui, alors moi je vais vous parler dans un premier temps du lancement de la 4e édition du prix BD Jeunesse, organisé par la maison d'édition Jungle. Ce prix a pour objectif de repérer de nouveaux talents et de soutenir et accompagner la création de bandes dessinées pour les jeunes lecteurs, entre 7 et 14 ans environ. C'est un concours qui est ouvert aux auteurs et autrices majeurs ayant déjà publié au minimum 2 albums avec une autre maison d'édition que celle appartenant à Stenkis Group. Donc pour information, Stenkis Group détient plusieurs maisons d'édition, dont Jungle justement, qui organise le concours.
C'est ça.
Jungle recherche une série ou un album one-shot, la pagination est libre, mais il est recommandé de ne pas dépasser les 64 pages par tome pour les projets de série. Concernant le prix, qui sera décerné au mois de mai, la somme de 3000 euros pour le ou les gagnants, puisque les co-créations sont acceptées. Et bien sûr, en récompense également, la publication de l'œuvre. La date limite d'envoi des propositions est fixée au 31 mars et vous pouvez vous rendre sur le site edition-jungle.com afin de retrouver la liste de ce que chaque projet devra comprendre ainsi que toutes les autres informations nécessaires.
Nickel. Ça, c'est le moyen de se lancer dans la BD à moindre frais, quoi.
Oui, alors après, il précise quand même qu'il faut déjà avoir publié...
Ouais. Quand même.
Donc bon.
Ensuite, alors parle bien dans ton micro par contre, parce que t'as tendance à bouger un petit peu.
Voilà. Pardon.
Pas de problème.
Alors, autre actualité, dans le cadre de son projet artistique et culturel, la commune de Loire-Authion souhaite engager une résidence autour de la bande dessinée en 2027. Les objectifs de cette résidence sont d'offrir du temps de création à un auteur de BD et d'animer des moments d'échange sur le territoire avec différents publics, et notamment un public scolaire. La candidature est ouverte aux auteurs, illustrateurs ou illustrateurs de bandes dessinées adultes, les scénaristes non-illustrateurs ne sont pas éligibles. L'artiste bénéficiera d'un studio et d'une salle de travail située dans le bourg de la commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire. La date limite de candidature est fixée au 8 mars 2026 à minuit. Et vous pouvez retrouver toutes les informations relatives sur loire-aution.fr.
Ça, c'est souvent l'occasion, en fait, d'aller sur place, créer autre chose et pourquoi pas rencontrer le public, parce que c'est souvent des animations qui sont faites autour de ça.
Ouais, c'est une expérience assez insolite, je pense que ça, ouais. C'est pas mal. Alors, dernière information, je vais partir sur un événement pas très loin de chez nous, à noter dans votre agenda. Donc, c'est la 20e édition du festival Les Bulles de Sèvres qui se déroulera à Saint-Laurent-sur-Sèvre, les 28 février et 1er mars prochains. L'entrée est gratuite et au programme, on aura une exposition sur le Petit Prince, des moments d'échange avec les artistes et de nombreuses animations pour les enfants, lecture de contes, ateliers maquillage et tombola. Alors l'atout majeur de ce festival, c'est la grande variété de thèmes présentés, fantasy, manga, jeunesse et roman graphique. Voilà, c'est tout pour l'agenda.
Eh ben c'est top, hein. Merci Flo. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se programme ça, Bruno? Est-ce que tu veux faire une première partie? Moi, je commence avec du jeunesse. T'en fais un petit bout.
Tes désirs sont des ordres.
Oh, me dis pas ça. J'ai des désirs bizarres des fois. Je vais commencer avec un truc tout simple. Est-ce que vous connaissez Avatar?
Un peu,
pas
vaguement.
Le truc avec les bonhommes bleus, hein.
Ah, pas les schtroumpfs, non, l'Avatar, le maître de l'air.
Le dernier maître de l'air. C'est une série qui avait été diffusée sur Nickelodeon, qui compte je ne sais plus combien d'épisodes. Et les éditions Nobinobi ont commencé à sortir ce qu'on appelle de l'anicomie. Ce sont des... tiens, tu peux le passer si tu veux. Le concept de l'anicomie, c'est un... On prend une série animée, on va extraire des vignettes qu'on va remettre dans un ouvrage. Là, les éditions Nobinobi sortent Anicomie Corp avec un premier ouvrage consacré à Avatar, le dernier maître de l'air. Donc c'est une série, si vous la connaissez pas, en gros c'est un monde où il y a plusieurs nations et dans chacune des nations, les gens ont des capacités sur les éléments eau, air, terre, feu. L'avatar est le seul à être capable d'utiliser les quatre éléments et il se réincarne une fois qu'il est décédé dans une nation, il se réincarne dans l'autre selon un cycle prédéfini. Et en gros, dans cette série, on va suivre Aang, qui est un jeune garçon de la tribu de l'air, une tribu de l'air qui a été décimée par la tribu du feu, et il se réveille 100 ans après. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de 100 ans sans avatar. Et il va être obligé de faire une espèce de tour du monde pour comprendre les différents pouvoirs et surtout rétablir la paix dans l'univers. C'est une série qui est dingue, qui a une fanbase absolument géniale. Elle est intelligente, elle fait de la géopolitique. C'est vraiment une série absolument géniale qui est accessible à partir de, moi je dirais, 7-8 ans. Pour comprendre vraiment toutes les arcanes, 10-11, parce que il y a quand même un peu de géopolitique, il y a des alliances qui peuvent passer complètement au-delà pour les petits. Et je trouve que ce type d'ouvrage-là, c'est super intéressant pour découvrir des séries sans passer par l'écran. En plus, là, c'est très bien fait. Souvent, sur les anicomies, le problème que je trouve, c'est qu'on a une espèce de flou, cinétique, qui est, à mon avis, inhérent en fait à la capture qui est faite pour pouvoir faire ces ouvrages-là. Et là, on n'a pas ça, ou je ne l'ai pas vu. Hein. Après, je deviens vieux, donc je le vois déjà un petit peu plus flou maintenant. Mais en vrai, il n'y a pas de problème. Donc, ça marche très bien. Le séquençage, il est bien fait. Il y a une fluidité qu'on retrouve, qui est celle de la série, qui est vraiment très cool. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça te parle, Flo ?
Oui, chère Ricard.
Dans le micro, sinon ça marche pas. Hein.
Faudra que je m'y fasse. Les images sont très belles en tout cas. Ce que je regarde en premier.
Alors si j'ai bien compris la technique, ils prennent des images, des plans de l'animé.
Ouais.
Et ils les agrègent dans le bouquin.
C'est ça.
Ah d'accord. Donc effectivement, on n'est pas trop dépaysé, quoi.
C'est ça. Ok. Ça, moi j'avais découvert ça il y a un peu plus de 30 ans avec Ghost in the Shell.
Ah oui, d'accord.
Qu'ils avaient retranscrit dans un ouvrage comme ça, un truc introuvable maintenant. Et c'est plutôt cool en fait. Là, tu vois, ça fait une série qui va être conclue en 9 tomes. Donc toute la série Avatar en 9 tomes, c'est des tomes qui sont assez épais, donc qui sont plutôt cool. Donc j'ai plus le nombre de pages. Il y a plus de 300 pages, donc voilà, pour un coût de 11,90€, ce qui est relativement correct. À savoir que la collection va s'enrichir avec différentes choses. On va avoir donc Avatar en premier, on aura Winx qui devrait plaire plutôt pas mal. On va avoir Odd Taxi, que je ne connais pas, qui est une série apparemment japonaise qui peut être cool. Et en fait, quand on regarde les choses qui sont annoncées, on devrait avoir Captain Tsubasa, Olivier Tom en français. On va avoir Your Name, L'Attaque des Titans et Suzume qui vont être mis en version Anikomi. Sachant que Suzume existe déjà en version manga. Donc c'est aussi intéressant de comparer les différentes itérations.
Et puis par ailleurs, il y a déjà un animé Attaque des Titans.
Ouais. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, sur ces choses-là, il y a, que ce soit Suzume, que ce soit Tsubasa, c'est des choses où il y a déjà un manga, ouais. Il y a eu un transfert à l'animé et on revient sur une version papier de l'animé. Alors, pour l'Attaque des Titans.
Du manga, tu veux dire?
De la version animée, ouais.
Ah pardon, oui, de, ouais. Le, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait une mise en abîme.
Qui est assez sympa.
À voir.
Sans vouloir être méchant pour l'Attaque des Titans, ce qui est hyper cool, c'est que les premiers tomes, le dessin est quand même assez affreux.
Ah bah, ça a vachement évolué, hein, sur donc, 34 tomes. Ouais. Oui, ça, il y a une énorme évolution.
Donc ça va être, c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir Avatar, le dernier maître de l'air. C'est Anikomi Corp, donc ce qui est plutôt cool. Voilà, n'hésitez pas. En plus, avec le service presse, on avait un petit flipbook avec le logo de la compagnie qui bougeait. Bon,
formidable.
Ça sert à pas grand chose, mais c'est rigolo. Voilà pour Anikomi. Je vais continuer sur la partie jeunesse avec un truc. Alors, Fabien, c'est dommage qu'il soit pas là, mais il nous entendra, il nous écoutera avec Clamp School Detective. Est-ce que ça te parle, Bruno? Est-ce que Flo, ça te parle?
Non.
Clamp, c'est un, c'est ça qui devrait déjà résonner un petit peu en vous. Clamp, c'est un studio de manga japonais qui est très célèbre. À la sortie, ils ont sorti beaucoup de choses, dont Cardcaptor Sakura par exemple pour le plus connu, mais aussi X, Tokyo Babylon, qui sont des mangas très très connus dans le milieu du manga. C'est un studio uniquement féminin et elles ont sorti pléthore d'ouvrages. Il y a une collection qui a été recréée par les éditions Pika, là il y a quelques en fin d'année dernière, et on a ce qu'ils ont appelé Clamp Universe, donc ils refont toutes les couvertures, et c'est l'occasion pour eux de remettre en avant des séries un peu moins connues, comme ce Clamp School Detective. De quoi ça parle, Clamp School Detective? Eh bien, on suit trois jeunes garçons, dont je ne me rappelle pas des noms, qui sont membres du bureau des élèves d'une école primaire, mais hyper hyper pointu. C'est tous très riches et c'est une école primaire. Enfin, c'est une. Ils sont dans l'université. Cette école primaire est dans une université qui est gigantesque et qui comprend plein de corps de métier. C'est presque une petite ville. Je crois qu'on a la carte dans l'ouvrage. Et c'est des enfants qui sont très riches et en plus hyper intelligents. Et comme ils ont une passion, il y en a un qui est très riche, il y en a un qui est riche mais qui est super doué en cuisine, il y en a un qui est BG et super bon en sport, enfin, BG pour beau gosse, hein. Et en fait ces jeunes enfants, qui je le rappelle sont en primaire, vont, après avoir fait quelques péripéties, décider de monter un club de détectives pour rendre service aux femmes qui en ont besoin. Oui, c'est dit comme ça, ils veulent rendre service uniquement aux femmes. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un point d'entrée pour l'univers de Clamp dans ce manga-là, puisqu'on va y retrouver, comme dans beaucoup de mangas de Clamp, plein de références. Il y a des références à Ducalion, qui est un autre de leurs mangas avec des espèces de policiers en armure. Il y a des références au voleur aux mille visages, qui est un des trois enfants du jeu, mais qui est une autre série. Donc, si vous connaissiez pas Clamp, c'est l'occasion de découvrir ça. Pourquoi Clamp, c'est super cool? Ben parce que c'est déjà un trait hyper particulier. Il y a un dessin qui est quand même assez assez fin. Il y a tous les codes en fait, je trouve, du shoujo. Alors, je me ferai sans doute reprendre par Fabien, mais on a tous les codes du shoujo, le manga plutôt pour filles, dans un manga qui est pas shonen, mais qui est un manga plutôt d'enquête, un peu comme on pourrait avoir Détective Conan ou ce genre de petit manga. Donc voilà, c'est une petite pépite, c'est 3 tomes, donc c'est pas grand-chose. Si vous connaissez pas l'univers de Clamp, bah c'est l'occasion de le découvrir. Le dessin, il a un peu vieilli, c'est une série qui doit dater des années de la fin des années 90, hein, en 92. Voilà, c'est l'occasion de découvrir quelque chose qui date un peu, mais qui est un classique pas assez connu à mon sens. Voilà, donc Clamp School Detective, ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Je vous ai donné envie ? Pas du tout ? Si.
Si.
Donc c'est un service de presse, hein, bien entendu, de la part des éditions Pika. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale, et puis on se retrouve tout de suite après. Comme on était sur du manga, eh ben, j'ai choisi de faire une petite pause avec Aina the End et On the Way, qui est le deuxième opening de la série Dan Da Dan. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Radio G 101.5 FM.
On monde est de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous écoutez toujours la case de Seb. Vous pouvez toujours interagir avec nous sur le chat de Radio G. On vous répond. J'espère que vous passez un bon moment. Voilà. Puis si vous passez un mauvais moment, bah, tant pis pour vous. Restez quand même. Ça nous fait plaisir. Ouais, voilà. Je suis comme ça, moi. On va parler rock and roll avec toi, Bruno. Ça doit.
Ouais, bah ça me va toujours. Moi, dès qu'on parle de rock and roll.
Tu commences par lequel? Tu
nous avais fait par celui que t'as dans la main. Ah. Donc Starman. Donc j'avais promis que je ferais une chronique dessus et je la fais là tout de suite maintenant.
Ok. C'est parti.
Donc Starman. Si on ne devait retenir qu'une seule période parmi les nombreuses qui ont jalonné la fantastique carrière de David Bowie, ce serait sans doute évidemment Ziggy Stardust. Parce qu'elle est la plus originale, la plus surprenante, la plus avant-gardiste, et aussi celle où il a failli se perdre, et dont il a su sortir pour se réinventer, loin des outrances du rock business lors de sa période berlinoise, où il est passé du statut de rockstar à celui de compositeur et musicien renommé et reconnu pour sa musique, et non plus les outrances de son look ou de sa vie privée. Pour nous faire revivre l'effervescence de ces deux époques essentielles, Reinhard Kleist était absolument l'un des mieux placés. D'abord parce que dans le domaine du biopic rock, l'auteur allemand sait faire. Ses deux ouvrages sur Johnny Cash et Nick Cave, ce sont des modèles du genre. Et Starman s'inscrit logiquement dans la même veine avec, en prime, une petite innovation, puisque Kleist est passé à la couleur. Cela semblait incontournable pour restituer l'orgie visuelle des looks flashy du glam rock de Ziggy et de ses Spiders of Mars. On n'est pas surpris qu'il s'en sorte au la main, et au passage, cela lui a procuré un ingrédient narratif, puisqu'il a gardé la bichromie pour les nombreux flashbacks qui émaillent son récit. En effet, les biopics de Kleist ne sont jamais linéaires, et ils échappent aussi à ce côté didactique qui caractérise souvent les biographies. Pour tout savoir sur Bowie, il existe déjà un paquet de bouquins et de pages internet, vous pourrez vous y référer, mais comme pour Cash et pour Cave, Kleist développe sa propre vision de ces sujets en explorant leurs fêlures intimes, les ressorts, les instants décisifs, les raisons profondes qui en font des artistes hors du commun. David Robert Jones, c'était le vrai nom de David Bowie, a toujours été passionné de science-fiction et son frère aîné était schizophrène. Ces deux éléments aident à comprendre le personnage de Ziggy Stardust. Même si la personnalité de Bowie est plus complexe, et c'est justement tout le talent de Kleist de lever une partie du mystère. L'évocation de l'exil volontaire de Bowie à Berlin, en compagnie de son âme sœur Iggy Pop, eh oui, n'est pas moins passionnante. Bowie va entreprendre une remise en question douloureuse mais fructueuse, tant de sa vie privée que de sa trajectoire musicale. On retrouve bien sûr ici l'une des qualités primordiales de Kleist, un dessin sobre, expressif et très fluide qui lui permet de composer une galerie de portraits hautement crédible sans tomber dans la caricature. Starman s'affirme, comme prévu, comme l'un des meilleurs biopics rock. Vivement le prochain.
Eh ben, ça donne vachement envie, ça, quand même.
Ouais, ouais, c'est absolument. C'est Kleist, quoi. Donc, il y a pas de surprise. On est. Et comme je disais, attention. Voilà, si. Il s'attache avant tout au personnage, à la personnalité et à la psychologie. Et ben évidemment, on retrouve des événements importants, mais c'est pas forcément super daté, marqué chronologiquement. Voilà, il y a plein de choses pour savoir, pour avoir justement un peu comme un biopic au Cinoche. Après, si on veut en savoir plus, on va se renseigner. Mais là, on est vraiment centré sur l'évolution du personnage.
Ok. Je redonne la référence.
Alors, oui, vas-y.
Bah, sauf si tu veux
le
faire.
Alors oui, je vais le faire, bien sûr. Donc, c'est Starman, quand Ziggy éclipsa Bowie. Éditeur Casterman, c'est un one-shot. Le dessin et le scénario, Reinhard Kleist. Le genre, bah, effectivement, biopic et rock. C'est paru le 24 septembre 2025 et il vous en coûtera 28 euros pour 344 pages.
J'ai rien de plus à dire. Parfait. Je rebondis sur un truc. Il a fait un biopic sur Nick Cave. C'est ce que j'ai cru entendre dans ton.
Ouais, il a fait un biopic sur Nick Cave et un biopic sur
Johnny Cash.
D'abord Johnny Cash, enfin, chronologiquement dans son œuvre, qui est un super biopic. qui pour moi est mieux que le film avec Joaquin Phoenix, même si il est bien, mais franchement il est absolument énorme. Et puis Nick Cave, voilà, sur une partie de, parce que Nick Cave c'est quelqu'un de particulier aussi.
Oui.
Et donc il a fait aussi un biopic assez magistral. Très, pour le coup, très très subjectif, par rapport à, où il faut vraiment, alors là on plonge dans l'univers et dans les personnages de Nick Cave qu'il a dans ses chansons, et c'est quelque chose d'assez qui peut être un peu déroutant, mais qui est absolument génial et qui a d'ailleurs été validé par Nick Cave lui-même, donc
fabuleux.
Voilà.
Et ben je serais curieux, même sur Starman, en vrai. Et de quoi tu nous parles ensuite ?
Eh ben, je vais tâcher de vous parler de Murder Falcon. Voilà.
Tu vas tâcher. T'es pas motivé. Ouais.
Si, mais j'ai un petit souci technique, mais on va le faire. Ça va le faire.
Ok. Dis-moi, je rebondirai. Je.
Ouais, pas de souci.
Du coup, on parle de Murder Falcon.
On parle maintenant. Ok,
ouais,
d'accord.
Non, ça tu veux c'est du bon.
Non, en fait, je vais me mettre à nu devant vous. En fait, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai imprimé deux fois la même chronique, donc j'ai pas la chronique de Murder Falcon, mais je vais la faire comme ça.
In media res.
Voilà. Donc c'est parti. Donc je vais essayer de me rappeler de la page que j'ai écrite, mais on va y arriver. Donc Murder Falcon, en fait, dans le style, plus c'est gros, plus ça passe. C'est absolument une référence du genre. Le pitch, déjà, pour commencer, c'est un guitariste, Jake, qui a abandonné, on va dire, son groupe de métal Bruticus, et qui se retrouve désœuvré, incapable de pondre le moindre riff, et tout d'un coup, apparaît dans sa vie Murder Falcon. Murder Falcon, c'est un faucon taillé comme Rambo, un faucon, donc un Rambo à plumes avec bras biomécaniques, et qui vient révéler à Jake qu'il a le pouvoir avec sa guitare de transmettre la puissance de sa guitare, du son de sa guitare métal à Murder Falcon, qui peut, grâce à ça, cartonner les gros méchants, les gros méchants monstres qui ont décidé de s'en prendre au hasard, en commençant par les États-Unis, à la Terre et à l'humanité. Donc Murder Chaos, c'est pas Murder Chaos, c'est
Murder Falcon.
Non, je me rappelle plus du coup du nom du gros méchant. Il s'appelle Total Chaos, je crois.
Ah puis ça, je l'ai pas là.
Ouais, c'est dans le bouquin, mais voilà. Donc en fait, il est obligé. Il en fait les ondes. Je sais pas comment expliquer ça, mais lorsque il joue avec sa guitare, ça transmet un pouvoir à Murder Falcon, qui grâce à ça peut tuer les grosses bébêtes qui s'attaquent à l'humanité. Et bien sûr, ça va pas s'arrêter là. D'autres musiciens vont arriver, Jimmy, une batteur, et puis Johan, un bassiste, et ils vont remonter le groupe Bruticus, et ils vont aller combattre les gros méchants un peu partout sur Terre. Va s'ajouter à ça un chanteur de black metal, l'orchestre philharmonique de Tokyo, tout ça pour augmenter la puissance de défense contre les grosses bébêtes qui attaquent la Terre. Donc quand on voit ça, on se dit mais waouh, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête ? Il y a des scènes, c'est vraiment très très tellurique, on va dire, c'est des combats à la Godzilla, ça cartonne dans tous les sens. Ce qu'on voit aussi dans le bouquin, c'est un graphisme qui est absolument maîtrisé, mais qui est pas un graphisme comics classique, très léché, un peu froid.
Non.
Là, on est sur un graphisme hyper dynamique, très lâché, mais complètement maîtrisé, et avec une mise en couleur énorme. Et tout ça, bah, ça sert complètement le propos. Et puis évidemment, c'est émaillé de références musicales métal partout. Et en plus, à la fin, il y a un artwork où Daniel Warren Johnson, c'est le nom de l'auteur, s'est amusé à revisiter des pochettes d'albums et de groupes cultes du métal. Alors, J'en ai un certain nombre que je valide complètement, comme du Iron Maiden, du Judas Priest, du Motley Crue, voilà, du Megadeth. Et donc c'est un fan absolu du genre. Il joue de la guitare depuis qu'il a 11 ans, donc il connaît très très bien le métal. Donc pour les métalleux, c'est effectivement assez réjouissant parce que les références sont vraiment foisonnantes. Et puis, mais effectivement, là, on ne fait pas dans la dentelle, ça charcle, ça dégomme. Malgré tout, au niveau psychologie des personnages, il prend le temps, juste ce qu'il faut, de faire un peu de pause et de remettre un peu en perspective le passé de Jake, qui est vraiment le personnage central. Et puis, voilà. Au niveau combat tellurique, émaillé de monstres, et puis où vraiment ça cartonne, parce que j'ai cité Murder Falcon qui est un faucon, mais Johan, le bassiste, convoque entre guillemets un mammouth.
Okay.
La batteuse Jimmy, c'est une sorte d'énorme serpent de mer. Et puis l'orchestre philharmonique de Tokyo, alors là on arrive, alors j'ai même plus en tête toutes les créatures qui viennent pour défendre la Terre et l'humanité. Donc l'intrigue est quand même assez, le pitch est assez court en fait, hein. Mais c'est une débauche visuelle et bon, c'est bien de l'écouter avec un bon gros disque, musique saturée derrière, pour être bien dans le truc. Et ouais, c'est un super comics. L'auteur a fait une version revisitée, pareil, de Wonder Woman,
okay.
Qui a été saluée vraiment par la critique, hein, aussi. Hein. Donc voilà. Donc alors c'est un bouquin qui est sorti en 2020, mais Delcourt l'a réédité en 2025. Avec plusieurs couvertures différentes. Il y a même une référence à Abbey Road, l'album des Beatles, dans une des couvertures. Donc,
à collectionner, quoi.
Voilà, absolument. Et donc, c'est une belle ressortie, réédition, on va dire. Et vraiment, ça vaut le détour. Moi, en BD rock metal, en BD metal, pardon, vraiment au centré metal. En fiction originale, je pense que c'est la meilleure que j'ai lue depuis Perqueros. Donc ça commence à remonter un peu. En même temps, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Vraiment centré sur le métal. Mais celle-ci, c'est une véritable réussite, tant au niveau de l'action, du récit, que visuellement. Quoi. Ça, c'est une explosion. Et ça va tout à fait avec la musique qui est vraiment mise à l'honneur dans ce bouquin.
Bah, il aime bien, en plus, Daniel Bryan Johnson, aller dans des choses un peu extrêmes.
Ouais, tout à fait.
Il avait fait Extremity, toujours publié chez Delcourt, qui était vraiment bien violent et qui parlait du côté familial et compagnie, qui était très cool. Il avait fait Do a Power Bomb dans le milieu du catch, pareil.
Ah oui, effectivement, oui, je l'ai vu celui-là. Et donc c'est il reste dans la même veine et c'est un auteur qui a vraiment un univers graphique très personnel et je veux dire il ressort vraiment dans le monde du comics, quoi. Voilà.
Et puis on n'a pas je trouve qu'on n'a pas cette impression de c'est la petite cerise qu'on rajoute pour faire joli. C'est du vécu, c'est dans la recette, c'est pas rajouté.
Là, c'est un passionné de métal, ça se voit, et il n'y a pas de triche, c'est sincère et c'est complètement un hommage à ce qu'il anime, quoi.
Eh ben, je crois que je vais te le piquer.
Si tu veux. Donc, c'est un one-shot, ça coûte 22,50€, si ma mémoire est bonne, et si ma mémoire est bonne aussi, il doit y avoir... un peu plus de 200 pages, voilà.
Allez, pas mal. T'en as pour 272 pages et t'avais le bon tarif.
Ouais.
Tu te rappelles la date de sortie ou pas?
C'est sorti donc en août 2020 et la réédition date de septembre 2025.
27 août 2025. Donc, début septembre.
Tu vois.
Parfait. Parfait, parfait. Eh ben, je vais mettre du son qui va un petit peu avec. Alors, c'est pas du métal, c'est plutôt du punk. Mais on va écouter The Distillers avec The Hunger. Et on se retrouve tout de suite après.
Ok.
Allez, c'est parti.
Holy eyes, I never know. I'm back down at your feet. Oh. 105.5 FM.
Allez, on est toujours sur le 105.5 de Radio G. Vous venez d'entendre The Distillers avec The Hunger. On est toujours dans la case de Seb et on va parler, je ne sais pas dans quel ordre les mettre en fait depuis tout à l'heure. On va parler d'un truc bizarre, hein. On va parler d'un crossover. On parlait un peu terminologie là pendant la pause musicale avec Florence qui découvre un peu l'univers quand même de la BD. Et tu me posais la question de ce que c'était qu'un one-shot. Donc one-shot, c'est un ouvrage qui se suffit à lui-même, qui n'est pas destiné à avoir de suite à la base. Et le crossover, qu'est-ce que c'est? Tu sais ou pas?
Alors bah, le crossover, c'est une œuvre où donc plusieurs, si j'ai bien compris, plusieurs personnages de différents univers se mélangent dans une seule œuvre.
C'est complètement ça. Souvent, les crossovers, on les trouve dans les comics, même si maintenant, on commence à en trouver un petit peu dans d'autres choses qui sont faites en franco-belge ou même en manga. Il y a Versus, par exemple, qui est un crossover. Il y a dans le webtoon, on a un univers un peu particulier que je me rappelle plus du nom, mais ça commence à se trouver partout. Et le truc, c'est que dans les comics, des fois, ils n'hésitent pas à faire des trucs complètement barrés. En l'occurrence, je vais vous parler ce soir de Sonic et DC Universe, qui est complètement barré. C'est de Ian Flynn et Adam Bryce Thomas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, DC Universe, la Justice League, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern et Cyborg, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est déjà en soi un petit crossover. L'univers DC, du comics, donc on a l'habitude de voir des crossovers dans ces univers-là. Il faut savoir que Sonic a un gros passif en comics. Sonic, le petit hérisson bleu mascotte de Sega, qui va super vite, ben, il a eu toute une série de comics qui prolongeait son univers et qui a plutôt bien marché. Et je pense que c'est la continuité logique de permettre à ce personnage d'interagir avec les personnages de chez DC. Pourquoi principalement chez DC? Bah peut-être parce que on trouve aussi chez DC un type qui va super vite et qui est très célèbre, à savoir Flash. Bon, je vous passe quand même le concept. L'histoire, elle est un peu succincte. Darkseid, un des grands méchants emblématiques de l'univers DC, cherche à nouveau l'équation d'antivie. Et pour ça, il va avoir besoin d'une source d'énergie qu'il va trouver chez l'émeraude mère, qui est un des gros éléments énergétiques. Quand il récupère toutes les émeraudes chez Sonic, en fait, il se transforme en Super Sonic. Sonic doré, vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, Darkseid vise cette puissance-là pour pouvoir avoir son équation de l'antivie. Mais en débarquant dans l'univers de Sonic, il a créé des espèces de portails dimensionnels qui fait venir la Justice League dans l'univers de Sonic. Et au départ, bon, il y a des petites bisbilles, puisque bah, les personnages de Sonic, Tails, Knuckles... de renard avec deux queues, et bah, ils vont se bagarrer un petit peu avec l'univers de DC, avec Batman, avec Superman, parce que bah, ils savent pas qui sont ces intrus-là, avant de finalement s'allier. Et puis, petit retournement de situation, la Justice League se retrouve bloquée dans l'univers de Sonic, alors que Sonic se retrouve bloqué dans l'univers de DC. Et ils vont devoir endosser la Team Sonic, le rôle de certains des personnages de la Justice League. Ce qui permet d'avoir des cosplays de Sonic en Superman, c'est Knuckles qui est en Superman, on va avoir Tails en Cyborg, Sonic en Flash, et puis on va avoir j'ai plus son nom, ouais, mais je cherche le nom, et on a Ami en Wonder Woman, et on a... je sais plus quel est le hérisson qui est toujours tout dark en mode Batman. J'ai plus son nom. J'ai perdu son nom. Je l'ai mangé. Bref, ça marche très bien. C'est très drôle. C'est pas l'histoire du siècle, hein, clairement pas. Le dessin, il est plutôt stylé. Voir les personnages affublés d'autres costumes, ça marche très bien. C'est fun. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Faut pas en chercher plus. C'est drôle. Donc, voilà, moi j'ai pas passé un mauvais moment. Si vous connaissez pas Sonic, bah c'est sûr que vous allez avoir du mal à avoir les différentes références. Il y a même des petites vannes comme quoi le grand méchant de Superman et le grand méchant de Sonic, c'est quand même deux chauves. Donc les génies du mal sont souvent des chauves. Je me sens pas concerné, mais enfin voilà, il y a plein de vannes, c'est rigolo, c'est léger, ça passe tout seul. Oh voilà. Toi qui l'as parcouru, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est l'esprit, effectivement, c'est de faire un truc fun, où on s'amuse à mélanger les genres. Ouais. Et bah, puis c'est vachement efficace. Ouais. Donc après, bon, le scénar, je l'ayant pas lu, je peux pas me rendre compte. Et ouais, ça fonctionne bien visuellement. C'est super super catchy. Ouais, c'est marrant. Je pense que ça doit y avoir un petit peu d'humour aussi, mais
ouais,
après ce que j'ai lu.
Flash et Sonic étant quand même deux personnages qui ont tendance à vanner tout le temps. Mmh. Là, en plus, ils se balancent des vannes l'une vis-à-vis de l'autre et c'est très drôle à voir, quoi. Donc ça marche franchement bien. C'est très efficace. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus, donc ça passe tout seul. Je redonne les références. Du coup, c'est Sonic versus DC Universe. C'est de Ian Flynn et Adam Bryce. Thomas, c'est publié aux éditions Urban. Ça fait 120 pages et j'ai plus le prix et c'est été sorti cet été de mémoire dans le courant de août. Voilà, sans doute pour surfer sur la sortie du deuxième film, troisième film Sonic, deuxième je crois.
Ouais, je sais plus. Ouais.
Bref. Voilà, donc voilà, si vous aimez les univers un peu barrés, si vous avez envie de découvrir à la fois DC ou Sonic et que vous préférez l'un ou l'autre, n'hésitez pas à y aller. C'est franchement drôle. Je vais enchaîner avec un truc que j'ai mis sous le tapis depuis un moment, qui est un petit pavé, un petit pavé de je sais plus combien de pages. Je crois qu'on est sur presque 600 pages. Je vais vous redire ça tout de suite. Ça s'appelle Yomotsuegi. Je vais vous le passer en même temps. Ça a été publié aux éditions Pika. Déjà, quoi dire sur Yomotsuegi? Déjà, le bouquin, il est juste trop beau. Je sais pas si tu peux en dire deux mots, Flo. Toi qui as le bouquin dans les mains.
Bah là, je suis en train de passer ma main sur.
Il y a un relief.
Alors,
en fait.
C'est vrai que j'ai.
Vernis sélectif.
Ouais, c'est même pas un vernis sélectif. Non, c'est clairement, il y a un relief dessus. Ouais.
C'est magnifique.
Le livre est très très gros. Donc on est sur un livre qui fait 25 euros, qui nous fait 640 pages. J'étais pas très très loin. L'ouvrage, en fait, on a pour vous donner une idée de la couverture, donc ça s'appelle Yomotsuegi, le fruit des enfers, c'est de Masazumi Kakizaki. C'est un ouvrage que Fabien voulait avoir en main, parce que je ne sais pas s'il se l'est procuré, on aura l'occasion d'en discuter peut-être à ce moment-là. Et la couverture, en fait, met un personnage au crâne rasé qui est du côté gauche, et son côté droit est une espèce de visage à tête de poulpe avec un œil un petit peu allongé. De quoi ça parle? Qu'est-ce qui te fait rire,
Flo? Non, mais c'est tout à fait ça. Ouais. C'est ce que j'étais en train de
toucher.
Relief là. Ouais.
Et effectivement, cette partie-là est en relief. Et en gros, l'histoire est assez simple. On suit Kenneth Sugunawa, qui est un policier, qui, pour se venger de la mort de ses enfants, de sa fille et de sa femme, a traqué en fait les responsables et les a tués. Ça l'a envoyé en prison. Il est complètement anéanti. Et en fait, au moment où il ressort de prison, il se rend compte que l'une des personnes qu'il est censé avoir tuées n'est pas décédée. Qu'il est toujours vivant et qu'il est chauffeur de taxi. Donc il va continuer à le traquer et il va se rendre compte d'une chose, c'est que cet individu est immortel. C'est ennuyeux, effectivement. Et il va lui arriver quelque chose et qu'il va rencontrer une personne qui va lui proposer de devenir à son tour immortel. C'est une jeune déesse de la mort qui va lui confier un fruit. Fruit qui va ronger une partie de ses souvenirs au fur et à mesure qu'il va avancer, quitte à ce qu'il se perde, qu'il perde sa propre humanité. Ça va permettre, en fait, c'est tout un cycle de vengeance. Est-ce que pour arriver à se venger d'un monstre littéral, il faut à son tour devenir un monstre? Ça, c'est la grande question de l'ouvrage. Et il y a plein de cheminements, parce que Nawa va finir par se perdre en lui-même à force de vouloir assouvir cette vengeance, parce qu'il va se rendre compte qu'il n'y a pas que ce type-là qui est immortel, il y en a plein d'autres. Et si on veut permettre à la paix de revenir, il faut permettre à ce que ces créatures-là ne prolifèrent pas. C'est un ouvrage one-shot, on a toute l'histoire dans ces 640 pages, et c'est juste somptueux. C'est trop beau, Il y a beaucoup de détails. T'as les passages où les monstres sont apparents. C'est très prononcé, c'est très sombre. Il y a beaucoup de matière. Alors, il y a du visqueux. Il y a vraiment tout ça qui transparaît un petit peu là-dedans.
Ouais, c'est assez impressionnant, effectivement.
Ouais. C'est magistral. Il y a des niveaux de gris, il y a du pointillé, il y a plein de techniques qui sont utilisées.
Beaucoup de travail sur les trames. Ouais.
C'est très très fort. Ouais. C'est très très beau. Par contre, je le rappelle, je le dis maintenant, c'est un ouvrage qui est plutôt conseillé aux adultes, oui. Déjà par sa thématique et puis par certaines scènes qui sont clairement pas destinées aux enfants. Il y a de la violence physique, mais il y a aussi de la violence psychologique. Il y a un viol dans l'ouvrage qui est pas beaucoup dissimulé. Voilà, donc c'est vraiment pas pour les enfants. C'est très bien, c'est même pour les plus grands, ça peut être des fois difficile un petit peu à lire, parce que voilà, il y a des thématiques qui sont pas simples, hein. Mais c'est un ouvrage qui est vraiment très sympa à lire. C'est très beau, ça pose beaucoup de questions. L'histoire est plutôt bien narrée. J'ai juste un petit souci, c'est que je veux pas dire que la fin elle est rushée, elle est un peu cohérente, mais on a un petit rebondissement sur la fin qu'on aurait aimé peut-être développer en plus de temps. Donc voilà, on a l'impression que cette fin est un peu rushée. Bon, alors que sur 640 pages, voilà, il y a eu quand même le temps de développer des choses.
Alors ce qui est formidable, c'est que il a sorti ça d'un seul bloc.
Eh ben, je suis pas sûr.
C'est ça. Ou alors, est-ce que c'est une intégrale ?
Je sais pas. J'ai mal fait mon travail en fait. Je pense que c'était en plusieurs tomes, mais
ça peut donner cette impression.
Mais ça peut, ouais. Ouais, au Japon, c'était en 3 tomes, c'est sorti en 2021, dans le magazine Gekkan Young Magazine. Voilà, on a les 640 pages, c'est vraiment l'intégrale des 3 tomes, qui étaient sortis. C'est sorti début décembre en librairie en France. Donc, voilà, 640 pages, 25 euros, je vous laisse faire le ratio,
prix
à la page, c'est très rentable.
Non, puis c'est chouette, hein, c'est vraiment de la belle ouvrage.
Ouais, c'est vraiment un beau bébé qu'il faut absolument lire parce que voilà. Et puis l'ouvrage, le relief qui est mis sur la couverture, l'ouvrage en lui-même est déjà top. Voilà. Puis si vous avez besoin de caler un meuble, là il y a ce qu'il faut.
Ouais, ou pour surélever des meubles dans une cave inondée, par exemple. Ça peut être très, très bien.
Ça peut être très, très bien.
Je sais de quoi je parle.
Ouais. A été inondé un petit peu?
Un petit peu, ouais. Oh. Mais ça va.
Non, mais c'est un très bel ouvrage et, voilà, faut y aller. Donc, je vous redonne les références. C'est, Yomotsuegi, le fruit des enfers. C'est chez Pika Edition. C'est de Masazumi Kakizaki. Voilà. On va continuer avec d'autres créatures des enfers, pas vraiment. On va aller aux éditions Komiku avec Nova et la forêt des monstres. C'est de Kamatama. Je vous le fais passer en même temps. Là, on est dans complètement autre chose. C'est beaucoup plus mignon. J'aurais peut-être dû le passer plus tôt parce que c'est terriblement choupi. On suit l'histoire d'une jeune fille qui a été élevée par une sorte de créature type Cerbère, un chien à plusieurs têtes avec beaucoup de poils. Et ces 2 individus vivent dans une espèce de grande forêt dans laquelle il y a plein de créatures un petit peu étranges. La jeune fille demande beaucoup à pratiquer ce qu'elle nomme la magia, qui est une sorte de magie, hein, on va pas s'embêter avec ça. Et ce Cerbère refuse de lui permettre de pratiquer la magia. Elle va avoir un autre compagnon qui est une sorte de grand hibou, grande chouette, je sais pas exactement, j'ai du mal toujours à les différencier, qui va lui apprendre un petit peu. Et on va se rendre compte que Nova, cette jeune fille, a une capacité innée à pratiquer une magia un petit peu particulière, à savoir qu'elle peut amplifier la magia des autres. Et à partir du moment où on commence à se rendre compte qu'elle a de la magia, ben on se demande d'où ça vient, pourquoi, pourquoi le Cerbère lui cache un petit peu d'où elle vient. Est-ce que c'est une elfe ou une humaine? On ne sait pas trop. Et du coup, il y a plein de petits mystères autour de ça. Pourquoi c'est bien? Parce que graphiquement, c'est très joli. Il y a beaucoup de matière, notamment sur le Cerbère, qui a toujours des poils qui ont l'impression d'être animés par un mouvement de vent ou de choses dans son corps. Parce que les noirs et blancs sont très bien travaillés. Il y a un univers fantasmagorique dans cette forêt qui est complètement dingue. On a vraiment l'impression d'être immergé dans une forêt complètement fantasmagorique. Et ça, on est vraiment noyé là-dedans. Et puis, les créatures sont juste somptueuses et on se pose vraiment les questions de qui est cette jeune fille et pourquoi elle est capable de faire cette magie. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très cool à lire. Un petit ouvrage qui pose plein de questions parce qu'on est sur un tome introductif. Pour l'instant, on a très peu d'autres personnages. On a un antagoniste qui pointe sur la fin. On se rend compte qu'il y a une espèce de corruption qui se répand sur la forêt et sur les alentours. Et il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse dans ce tome 1. Et il faudra attendre la suite.
Le tome 27.
oui, je pense que ça peut être long parce que pour l'instant, alors c'est une série qui est encore jeune, qui a débuté en 2024 au Japon, qui ne compte que 2 tomes actuellement. Et le tome 1 vient de sortir chez Komiku, là, de manière très récente. Donc moi j'ai envie de lire la suite parce que j'ai vraiment été happé par ce premier petit ouvrage qui m'a donné vraiment envie d'aller découvrir la suite. Voilà. Flo, qui l'a eu dans les mains?
Alors rien à voir, mais moi ça me fait penser à l'univers de Princesse Mononoke.
Il y a un peu de ça, ouais. La magie, les créatures,
la forêt,
le grand loup. Alors là il a plus de tête, oui, que dans Princesse Mononoke, ouais. Mais Donc c'est vraiment très cool. Donc voilà, Nova et la forêt des monstres, c'est publié aux éditions Komiku et c'est de Kamatama. C'est pour un prix de 7,99€ et je sais plus combien il y a de pages, je l'ai pas dit, je sais pas, j'ai trouvé 240 pages. Non, même pas, à peine. 212 pages, on va dire. Bref, on arrive sur la fin de l'émission, on va rappeler un petit peu tous les titres. Donc on vient de parler de Nova et la forêt des monstres, publié chez Komiku, de Kamatama, qui était un service de presse. On a parlé de Yomotsu Aigui, le fruit des enfers, de Masazumi Kakizaki, publié aux éditions Pika, c'était un service de presse également. On a parlé de Sonic versus DC Universe, de Ian Flynn et Adam Bryce Thomas, publié aux éditions Urban, c'était une chronique libre. On a parlé de Murder Falcon, de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer, aux éditions Delcourt, c'est une chronique libre.
Absolument, je suis un homme libre.
On a parlé de Starman quand Ziggy éclipsa Bowie, de Rainer Kleist, publié aux éditions Casterman. On a parlé de Clamp School Detective, de Clamp, publié chez Pika Édition, c'est un service de presse. Et on a parlé d'Avatar, le dernier maître de l'air, chez Anime Comic Corp, et c'était aussi un service de presse. Ce qui nous mène à la fin de cette émission. Je suis content d'avoir passé ce moment avec vous. Ça a été
super.
Super. Eh ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas de lire en attendant. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. In all the
how it was, but nothing ever felt right.